va lire dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais faire une affirmation. Dieu est souverain. Bien sûr qu'il est souverain. Il est Dieu, après tout, non ? C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Ça tombe sous le sens. C'est comme si on disait « ce gratte-ciel est grand » ou « cette Formule 1 est capable de rouler très vite ». Ben, bien sûr qu'un gratte-ciel, c'est grand. Un gratte-ciel, c'est grand par nature. Bien sûr qu'une Formule 1 est capable de rouler très vite, puisqu'une Formule 1, ça roule vite par nature. Et bien sûr, donc, que Dieu est souverain. Dieu est souverain par nature. Alors, pour être sûr que tout le monde sait de quoi on parle, voici la définition du mot « souverain ». D'après le Larousse, le dictionnaire Larousse. « Souverain », adjectif, se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Alors, quand on dit que Dieu est souverain, on est en train de dire que Dieu a le pouvoir suprême et que rien ni personne n'exerce de contrôle sur lui. C'est au contraire lui qui exerce un contrôle sur tout le reste. Ça paraît logique, non ? Après tout, comme je l'ai dit, c'est Dieu. Mais en réalité, êtes-vous ce soir pleinement convaincu de l'absolue souveraineté de Dieu ? Êtes-vous convaincu que le pouvoir de Dieu n'est limité par aucun autre lorsque votre voiture tombe en panne ? Êtes-vous convaincu que le pouvoir de Dieu n'est limité par aucun autre lorsqu'on vous a volé votre portefeuille dans le métro ? En êtes-vous convaincu lorsque le président nouvellement élu n'est pas celui que vous espériez ? En êtes-vous convaincu lorsque vous tombez malade ? Ou peut-être plus gravement encore, en êtes-vous convaincu lorsque vous perdez un être cher ? À chaque fois que vous êtes confronté à soit un petit pépin, soit une grosse épreuve, examinez votre attitude. Que reflète-t-elle en ce qui concerne l'idée que vous avez, que vous vous faites de Dieu ? Est-il vraiment souverain dans cette situation ? Ou bien est-il souverain mais juste un peu ? Son pouvoir n'est-il vraiment limité par aucun autre ? Ou bien, y a-t-il des puissances capables de faire concurrence à Dieu, des puissances auxquelles vous ou votre vie est soumise ? Et je crois que ce sont là les questions que nous devons nous poser au moment de lire le texte qui va nous intéresser ce soir. On est en plein milieu du récit des 10 plaies d'Égypte. Ça fait pas mal de semaines, peut-être quelques mois même, que nous étudions de façon suivie le livre de l'Exode et le récit qui nous y est présenté. Maintenant, on est au plein milieu du récit des 10 plaies d'Égypte. Et rappelez-vous que Moïse nous a fait comprendre que l'intention de Dieu, à travers ces jugements spectaculaires qu'il envoie contre l'Égypte, l'intention de Dieu est double. D'abord, il veut libérer son peuple de la servitude, bien sûr, par le moyen de ces catastrophes qu'il envoie contre l'Égypte. Mais sa deuxième intention, enfin l'autre facette de son dessein, c'est de se faire connaître à la fois de son propre peuple, parce que souvenez-vous qu'après plusieurs siècles de servitude, le peuple était devenu globalement assez incrédule vis-à-vis de Dieu. D'abord donc de son propre peuple, mais aussi des Égyptiens qui ne connaissent pas du tout Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les 10 plaies d'Égypte ont donc une portée pédagogique très importante. Elles libèrent le peuple de Dieu et elles révèlent le Dieu du peuple. Elle libère le peuple de Dieu, ces plaies d'Égypte, et en même temps, elle révèle le Dieu du peuple. Tout cela dans un contexte, rappelez-vous, hein, tout ça, on en a parlé déjà ces dernières semaines, dans un contexte polythéiste, c'est-à-dire un contexte où il y a plein de gens, enfin où la plupart des gens, croient qu'il existe une multitude de dieux différents. L'enjeu, donc, de ces plaies d'Égypte, c'est notamment de montrer que le Dieu d'Israël, celui qui s'appelle l'Éternel, n'est pas juste un Dieu parmi les dieux, un Dieu parmi les autres dieux, mais c'est de montrer qu'il est le Dieu, le seul en fait dans sa catégorie, le seul créateur, régisseur et juge de tout ce qui existe, le seul qui ne souffre d'aucune concurrence ni d'aucune limite. Le seul, en un mot, souverain. Et toute la leçon de ce texte, c'est de nous montrer, comme on va le voir dans quelques instants, que l'Éternel n'est pas qu'un peu souverain, mais il est absolument souverain. Et donc on va lire le récit des plaies numéro 4, 5 et 6. Hein, il y en a 10, hein ? Vous avez sans doute déjà entendu l'histoire des plaies d'Égypte. On a vu la dernière fois les trois premières plaies, et là on va lire les plaies 4, 5 et 6. Et la raison pour laquelle on peut regrouper les plaies par groupe de trois, c'est que à chaque fois, la première plaie, ensuite à la quatrième et ensuite à la septième, le texte commence de façon identique. Dieu dit à Moïse de se rendre tôt le matin auprès du Pharaon. Et donc c'est une structure naturelle dans le texte. Alors, lisons à partir donc de la quatrième plaie, pour ce qui est de mon découpage, c'est le verset 16, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau. Et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. » Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple. Et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Pardon, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Le Pharaon dit, « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Intercédez pour moi. » Moïse répondit, « Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel agit selon la parole de Moïse. Et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et sur le petit bétail. Il y aura une peste très grave. L'Éternel distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de l'Égypte, et il ne périra rien de tout ce qui appartient aux Israélites. » L'Éternel a fixé l'échéance en disant « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » L'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tout le cheptel de l'Égypte mourut, et il ne mourut pas une bête du cheptel des Israélites. Le Pharaon envoya prendre des informations, et voici que pas une bête du cheptel d'Israël n'était morte. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez à pleine poignée de la suie de fourneau, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères, avec éruption de pustules. Ils prirent de la suie de fourneau et se tinrent devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les bêtes des ulcères, avec une éruption de pustules. Les magiciens ne purent se présenter devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. On s'arrête là pour la lecture et je vous invite à prier. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous l'aide de ton esprit pour comprendre ce texte et la portée de ce texte que tu as inspiré. Applique-le donc, s'il te plaît, à notre vie. Amen. Si vous avez pu suivre un petit peu depuis quelques mois notre étude de ce texte, vous savez donc que depuis le début, le déclenchement des plaies d'Égypte, Dieu a d'abord changé l'eau du Nil en sang. Ensuite, il a provoqué une invasion de grenouilles. Ensuite, il a provoqué une invasion de moustiques ou de poux, ça dépend des traductions, on n'est pas trop sûr de ce que c'était, ces petites bêtes. Et maintenant, Dieu provoque une invasion de mouches venimeuses, plaie numéro 4. Mais cette fois, le texte ajoute une précision qui n'avait pas été portée à notre connaissance jusqu'ici. C'est que Dieu fait une distinction entre son peuple et le peuple d'Égypte. Hein, vous avez vu ça au verset 18 et 19, enfin, encore une fois, je sais que vous avez peut-être un découpage différent. Et cette distinction a un but pédagogique explicite qui nous est dit, noir sur blanc, dans ce texte, c'est de montrer que l'Éternel est au milieu de ce pays, qu'il est au milieu de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Éternel est Dieu, même en Égypte, où les Égyptiens ne le reconnaissent pas comme Dieu pourtant. C'est-à-dire également que Dieu est capable d'exercer son contrôle sur la nature, et ici sur les mouches venimeuses, même en territoire ennemi. Il est capable de faire du bien à son peuple, même en Égypte, où c'est pourtant Pharaon qui gère les affaires du pays. Comme le dit très simplement une des premières questions du catéchisme pour enfants de Westminster, j'espère que vous êtes bien attentifs les enfants. Où est Dieu ? Réponse ? Partout, c'est une des questions les plus faciles pourtant. On va tout reprendre à partir du début du samedi prochain. Où est Dieu ? Partout, tout simplement, la réponse est simple, il est Dieu. Il est donc partout, même en Égypte. Alors en portant notre attention pour la première fois ce détail, Moïse est en train de nous montrer, et de montrer au monde entier, de montrer à tous ceux qui, à partir de ce jour-là, vont lire ce texte, qu'on ne cantonne pas l'Éternel. On ne cantonne pas l'Éternel, c'est-à-dire on ne peut pas lui imposer des limites ou des frontières pour lui dire « là, tu dépasses pas, tu n'enfreins pas ces limites, ok ?» On ne peut pas faire ça à Dieu. Il est le Créateur souverain, la terre entière lui appartient parce qu'il est son Créateur, il est donc partout chez lui. Imaginez que le nouveau président de la France décide d'aller à la rencontre des habitants de Marseille pour un petit bain de foule, voilà, faire augmenter un peu sa popularité. Est-ce que le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est-ce que le maire de Marseille pourrait l'empêcher de venir sous prétexte que lui, Jean-Claude Gaudin, est affilié à l'UMP, donc un parti de droite, tandis que le président, lui, il est socialiste ? Est-ce qu'il est capable de faire ça ? Bien sûr que non. Que cela lui plaise ou non, le président de la République est président de toute la France, n'est-ce pas ? Y compris de Marseille, même si le maire, lui, est dans un autre parti. De façon similaire dans le texte, hein, toute proportion gardée, le Dieu d'Israël est le Dieu de la terre entière. Il est partout chez lui, que cela plaise aux habitants de la terre ou non. Voilà ce que les gens sont en train de découvrir dans ce texte. On ne cantonne pas l'Éternel parce qu'il est absolument souverain. Contrairement au pseudo-dieu de l'Égypte et de tous les autres peuples païens de la région. Alors, mes amis, ce soir, est-ce que vous vivez encore dans l'illusion qu'il y a une partie de votre vie ou une partie du monde qui vous entoure qui n'appartient pas à Dieu ? Vous connaissez sans doute la situation de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un pays où l'athéisme a été institutionnalisé. Et où aujourd'hui, les chrétiens, d'après l'association Portes Ouvertes, c'est le pays où les chrétiens aujourd'hui sont le plus persécutés au monde. Pourtant, on estime qu'il y a en Corée du Nord entre 200 000 et 400 000 chrétiens, c'est-à-dire grosso modo le nombre de chrétiens qui croient, enfin de chrétiens évangéliques en France. C'est le pays du monde, le saviez-vous, où il y a le plus grand nombre de Bibles enterrées. Il existe des réseaux clandestins qui acheminent de la nourriture depuis la Chine pour venir en aide à l'Église qui souffre, comme d'ailleurs tout le reste de la population, de la famine. Vous voyez, on ne cantonne pas l'Éternel, même en institutionnalisant l'athéisme. On ne cantonne pas l'Éternel, on n'impose pas de frontières à Dieu. Il n'est pas qu'un peu souverain, il est absolument souverain. Il est Dieu en Égypte, il est Dieu en Corée du Nord, il est Dieu le dimanche, il est Dieu le lundi, jusqu'au samedi, il est Dieu à l'église, et il est Dieu au bureau, et à la fac, et au supermarché. Mais regardons la suite. Dieu a donc provoqué une invasion de mouches venimeuses. Et il a attiré l'attention sur le fait qu'il était capable de faire une distinction entre son peuple et les autres, même en Égypte, dans un pays qui ne le reconnaît pas comme Dieu. Par conséquent, la leçon, je l'ai dite, c'était que le Pharaon reconnaisse que l'Éternel est Dieu, même dans son propre pays, même en Égypte. Mais comment réagit le Pharaon dans le texte ? Eh bien, le Pharaon, il se croit très malin. Il se croit très malin. Qu'est-ce qu'il dit ? Ok, puisque l'Éternel est Dieu en Égypte, eh bien, vous n'avez pas besoin de sortir du pays pour lui rendre un culte. Vous voyez verset 21 ce qui se passe. Vous voyez l'insolence du Pharaon. Il pense qu'il peut prendre Dieu au piège de ses propres paroles. Ah oui, l'Éternel est au milieu du pays, donc vous n'avez qu'à lui offrir le sacrifice ici. Inutile de quitter le pays comme vous voulez le faire. Il essaye de négocier avec Moïse et Aaron comme si Dieu était son égal. Comme si Dieu c'était juste un autre roi d'un autre pays. Et vous l'avez remarqué dans le texte, Moïse ne va rien concéder du tout. Hein. Et après avoir donné une explication très pragmatique qu'ils doivent quitter l'Égypte pour rendre un culte à Dieu, notamment le fait que s'ils offraient des sacrifices à Dieu qui étaient abominables aux yeux des Égyptiens, il en irait de leur propre sécurité. Mais après avoir donné une explication pragmatique au Pharaon, il va ajouter une explication théologique, et c'est celle-là qui devrait attirer encore plus notre attention. On la trouve au verset 23. Et qu'est-ce qu'il dit en substance à Pharaon ? Il lui dit, écoute, on va quitter l'Égypte, on va rendre un culte à Dieu, selon ce qu'il nous dira. Vous avez remarqué cette expression ? Selon ce qu'il nous dira. Autrement dit, Dieu décide, et nous on obéit. On ne négocie pas avec Dieu. Et toi aussi, Pharaon, tu devrais obéir. Dieu décide, et nous, on obéit. Ce que Moïse est en train de nous faire comprendre ici, c'est qu'en vertu de l'absolue souveraineté de Dieu, personne n'est en position de négocier avec Dieu. Imaginez un père de famille qui dise à son jeune fils de 5 ans, « Range ta chambre, s'il te plaît. » Et le petit lui répond, « S'il me plaît, eh bien, il ne me plaît pas. » Donc je ne vais pas le faire. Merci d'avoir demandé mon avis. Deuxièmement, qui a acheté cette maison ? C'est pas moi, c'est toi. Donc techniquement, c'est ta chambre, pas la mienne. Troisièmement, si tu penses vraiment que c'est ma chambre, alors peut-être que je la rangerai un jour si j'ai envie. Mais toi, tu ne vas plus y mettre les pieds. Les enfants, parfois, aiment bien faire les petits malins, n'est-ce pas ? Mais quelle insolence ! Quelle insolence ! Normalement, si les parents décident, les jeunes enfants obéissent, un point c'est tout, n'est-ce pas ? À plus forte raison, si Dieu parle, les hommes écoutent et croient. Si Dieu donne un ordre, les hommes se soumettent et suivent. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter, rien à négocier, rien à exiger, ni à attendre en retour. J'ai beaucoup apprécié ce que John Piper, un théologien et pasteur américain, assez connu, ce qu'il a dit la semaine dernière lors d'un séminaire auquel j'ai assisté à Genève. Même si tu ne comprends pas, obéis. Avec Dieu, même si tu ne comprends pas, obéis. À cause de notre orgueil, nous sommes tellement arrogants et impertinents vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas ? Tellement arrogants et impertinents vis-à-vis de sa parole. Mais l'apôtre Paul nous dit, « Qui es-tu pour discuter avec Dieu ?» Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, « Pourquoi tu m'as fait ainsi ?» On ne négocie pas avec Dieu. Il n'est pas qu'un peu souverain, il est absolument souverain. Il est Dieu et nous, nous ne sommes pas Dieu. Sa parole est parfaitement fiable, tandis qu'aucune autre information n'est parfaitement fiable. Sa sagesse est suprême et la nôtre, elle est corrompue. Dieu décide. Et même si on ne comprend pas, on obéit. On ne négocie pas avec Dieu. Alors Moïse n'a rien concédé face au Pharaon. Et donc le texte nous explique que Pharaon, finalement, c'est lui qui va céder, même s'il le fait un peu à reculons. D'accord, je vous laisse partir, mais n'allez pas trop loin. Et en plus, il demande à Moïse de prier pour lui et de faire ce qui est sous-entendu, c'est qu'il prie pour que les mouches quittent le pays d'Égypte. Moïse accepte. Mais avant de prier pour faire partir les mouches, Moïse le met en garde. Il le met en garde contre le fait de ne pas tenir sa parole, comme il l'avait fait auparavant, pendant l'épisode des grenouilles. Il avait dit, je vais te laisser partir, mais toi d'abord prie pour que les grenouilles partent. Ok, Moïse prie, les grenouilles partent. Ah non, j'ai changé d'avis. Et là, Moïse le met en garde. Ne recommence pas, Pharaon, ne continue pas de nous tromper, comme tu l'as fait. Les peines perdues, hein. Une fois les mouches parties, encore une fois, le Pharaon change d'avis, et il empêche les Israélites de partir. Alors, Dieu va envoyer une cinquième plaie, et ensuite une sixième plaie. Mais cette fois, ce qu'il faut remarquer, c'est l'aggravation des fléaux que Dieu envoie contre l'Égypte. Jusqu'ici, plaie numéro 1, 2, 3 et 4, ces fléaux ont consisté en de graves nuisances, ok, l'eau changeait en sang, ok, des moustiques ou des poux, ok, des grenouilles, ok, des mouches. C'est des nuisances, c'est pénible. Mais maintenant, à partir de la cinquième plaie, les jugements augmentent d'un cran et on passe à quelque chose d'autrement plus grave. D'abord, Dieu fait mourir le bétail des Égyptiens, toutes les bêtes d'élevage des Égyptiens. C'est une grave crise économique pour l'Égypte. C'est terrible. Tellement d'animaux morts, et ce ne sont pas que des grenouilles ou des mouches. Des chevaux, des chameaux, des vaches, tout le cheptel des Égyptiens, nous dit le texte. Et ensuite, sixième plaie, il va s'en prendre pour la première fois directement aux hommes eux-mêmes, en leur infligeant des souffrances dans leur chair. Ces ulcères, avec éruption de pustules, nous dit le texte. Quelle horreur! Mais Dieu est en train de hausser le ton, vous voyez? Et pourquoi Dieu hausse-t-il le ton? Eh bien parce que le Pharaon a récidivé. Il a fait mine de se soumettre à la volonté de Dieu, mais ça s'est révélé être de l'hypocrisie. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent un peu, ou beaucoup même, l'histoire des 10 plaies d'Égypte, et qui reprochent à Dieu d'être cruel et violent. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais en fait, je crois que si c'est votre cas, vous n'avez pas bien compris ce qui se passe dans cette histoire. À votre avis, pourquoi Dieu n'a-t-il pas, dès le premier chapitre de l'Exode, exterminé tous les Égyptiens? Ça aurait été radical pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et en plus, il en est capable. Parce qu'au lieu d'être cruel et violent, Dieu en fait est patient. Et pédagogue. Imaginez un parent qui prive son enfant de dessert pendant un mois. C'est cruel? Oui, c'est cruel si le seul tort de l'enfant est d'avoir oublié son écharpe à l'école. Mais au contraire, c'est plutôt magnanime si le tort de l'enfant, c'est d'avoir mis le feu à l'école. De la même façon dans le texte, Dieu hausse le ton vis-à-vis de l'Égypte, mais seulement après que le Pharaon se soit montré particulièrement odieux et arrogant et inflexible et hypocrite et malhonnête. Donc le récit des 10 plaies d'Égypte, vous voyez, c'est pas le récit de la cruauté de Dieu et de sa violence, c'est le récit de la patience et de la pédagogie de Dieu. Mais en même temps, c'est bel et bien le récit de la sévérité d'un Dieu dont on ne se moque pas impunément ni indéfiniment. Franchement, on a vraiment besoin d'entendre cela aujourd'hui, je crois. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, peut-être parmi nous, ou peut-être parmi les gens qui vont écouter ce message sur Internet, j'ai bien peur qu'il y ait des gens qui ont entendu parler de Dieu, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu parler de ce que Jésus a fait, qui lisent peut-être même la Bible, qui ont peut-être même l'air d'être croyants et chrétiens, et qui en même temps ont un cœur endurci et incrédule. Mes amis, je ne peux qu'attirer votre attention sur ce texte. On ne se moque pas de Dieu impunément, ni indéfiniment. C'est de Dieu dont il est question. Il n'est pas qu'un peu souverain, comme un autre Dieu. Il est absolument souverain. Et donc, il est capable d'exercer ses jugements souverainement. Et en même temps, il exerce sa patience en ce moment même, souverainement. Mais ça ne va pas durer indéfiniment. Voici ce que dit l'apôtre Pierre dans une de ses épîtres dans le Nouveau Testament. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Saisissez donc l'occasion. Il est patient, mais il est sévère et juste. Et pendant qu'il est patient, ne ferions-nous pas mieux de nous intéresser à lui et de savoir ce qu'il attend de nous? Et voilà qu'on arrive au dernier point. Et ce dernier point, c'est plus que la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le couronnement de tout le passage qu'on a lu. Rappelez-vous donc que Dieu est en train de se faire connaître progressivement à travers ces jugements spectaculaires qu'il est en train d'infliger à l'Égypte. Rendez-vous compte que Dieu se présente au départ comme celui qui change l'eau du Nil en sang. Dieu se présente au départ à des gens qui ne le connaissaient pas avant comme le Dieu qui envoie une invasion de grenouilles. Ça, alors j'ai vraiment envie d'adorer ce Dieu-là. Mais il est en train de se faire connaître progressivement à travers ses jugements spectaculaires. Et notamment, il est en train de montrer qu'il est Dieu au sens fort et exclusif du terme. Que personne n'est comme lui. Il est le seul souverain. Et de plus en plus, le texte est en train de montrer explicitement que c'est lui, l'Éternel, qui tient les commandes et qui est en contrôle de la situation. Le verset 5 déjà, chapitre 9, nous dit que c'est Dieu qui fixe d'avance l'échéance de son jugement. Et ça encore, c'est une précision nouvelle dans le récit. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas avant. Mais là, le texte nous le précise. Vous voyez, le texte est en train de nous révéler progressivement comment est Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Mais surtout, verset 12, c'était le dernier verset qu'on a lu, il y a une affirmation choquante. Dieu endurcit le cœur du Pharaon. C'est la première fois que dans le récit des plaies, il est dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Jusqu'ici, c'était soit le Pharaon endurcit son cœur, soit le cœur du Pharaon s'endurcit. Et là, tiens, tout d'un coup, plaie numéro 6, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. En fait, toutes ces formules désignent la même réalité. Il ne faut pas croire qu'à partir de ce verset, il y a quelque chose qui change. Avant, c'était Pharaon qui endurcissait son propre cœur. Maintenant, c'est Dieu qui l'endurcit, comme si ça décrivait deux réalités différentes. Non, ce sont deux formules différentes, certes, pour décrire une même réalité. Le cœur du Pharaon qui s'endurcit. Et d'ailleurs, si on remontait un peu dans le texte, on remarquerait, et vous vous souvenez peut-être, que Dieu avait dit d'avance qu'il endurcirait le cœur du Pharaon. Mais du point de vue textuel, du point de vue textuel, du point de vue du récit, au fur et à mesure qu'on est en train de le lire, c'est la première fois que cette expression apparaît dans le récit des plaies, proprement dit. Et pourquoi Moïse le précise à ce moment-là? Je crois que son but, c'est de surligner au marqueur fluorescent l'idée principale qu'il est en train de nous transmettre, à savoir que Dieu est absolument souverain. Dieu est absolument souverain, il maîtrise même les cœurs, et rien ni personne ne peut lui résister. Alors bien sûr, vous avez peut-être l'impression qu'il y a là un paradoxe. Dieu exige de la part du Pharaon qu'il lui obéisse, et en même temps, Dieu endurcit son cœur et donc l'empêche de lui obéir. Paradoxe. Mais avez-vous remarqué que Moïse ne semble pas du tout embarrassé par ce paradoxe ? Il emploie cette formule ici pour nous faire comprendre tout simplement que Dieu est vraiment absolument souverain. Alors, pour essayer de mieux comprendre, on a parfois tendance à penser à Dieu comme étant quelqu'un comme nous, mais qui aurait la chance d'être doté de pouvoirs surnaturels que nous n'aurions pas. Et du coup, on perçoit parfois les facultés de Dieu, les facultés qui lui sont propres, comme étant en concurrence avec les nôtres. Il est avantagé puisqu'il a des pouvoirs surnaturels que nous n'avons pas. Dieu a une volonté, par exemple, comme nous, nous avons une volonté. Mais la volonté de Dieu, lui, à lui, elle est souveraine, tandis que la nôtre n'est pas souveraine. Les deux, voyez-vous, on les imagine en concurrence. La volonté de Dieu, mais lui, il est avantagé, il est souverain, et la nôtre, notre volonté qui n'est pas souveraine. Les deux, sont en concurrence. Et si Dieu nous empêche de faire quelque chose dans sa volonté souveraine, ou s'il nous force, ou nous oblige, ou nous provoque à faire quelque chose, nous avons du mal à comprendre pourquoi ça ne voudrait pas dire que c'est lui, Dieu, qui devrait emporter la responsabilité, puisque sa volonté est souveraine, et pas la nôtre. Mais le problème, justement, est dû au fait que nous avons une idée limitée de la souveraineté de Dieu. Nous l'imaginons, je l'ai dit, comme, au fond, quelqu'un comme nous, mais qui a des pouvoirs surnaturels. Mais il n'est pas comme nous. La souveraineté de Dieu n'est pas propre à ce que Dieu est capable de faire, mais elle est propre à sa nature, elle est propre à qui il est. Dieu n'est pas quelqu'un comme nous, qui serait simplement doté de pouvoirs surnaturels. Il est le Créateur. Nous sommes sa création. Il y a une différence, une distinction radicale entre les deux. Il n'y a aucune concurrence possible entre Dieu et nous. Pour le dire encore autrement, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas un avantage que Dieu aurait sur nous. C'est un attribut de Dieu que personne d'autre n'a. Et cette souveraineté divine propre à qui Dieu est, elle est tellement absolue, cette souveraineté, que Dieu est en mesure de décréter le fait que le cœur du Pharaon s'endurcisse, et il est capable en même temps de décréter le fait que le Pharaon est coupable de l'endurcissement de son propre cœur. Vous voyez à quel point Dieu est souverain, il peut décréter les deux. Le fait que le cœur du Pharaon s'endurcisse, et en même temps le fait que le Pharaon est responsable de l'endurcissement de son cœur. Dieu est à ce point souverain, à ce point différent de nous, qu'il décrète nos actes et en même temps la responsabilité que nous avons de nos actes. Et ce n'est pas un paradoxe pour Dieu, ce n'est pas une contradiction pour Dieu, ce n'est pas une contradiction pour la Bible, ce n'est pas une contradiction pour Moïse qui nous raconte ce récit. Et si cette réalité ne vous plaît pas, je vous renvoie à mon deuxième point. Si tu ne comprends pas, incline-toi quand même et accepte ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui le dit. Alors vous avez compris le message que Moïse est en train de nous transmettre dans ce passage. Hein. Dieu n'est pas qu'un peu souverain. À l'image de tous les dieux de l'Égypte ou des pays voisins, qui ont une multitude de dieux, et tous ces dieux ont certaines prérogatives sur certains pays et sur certains peuples. Dieu n'est pas comme ça. L'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est complètement différent de tout ça. Il est absolument souverain, il est le seul dont on peut dire que son pouvoir n'est limité par aucun autre. Bref, il est Dieu. C'est ça toute ma prédication ce soir. Dieu est Dieu. Il est le propriétaire de tout ce qui existe, il est partout, comme le dit le catéchisme pour les jeunes enfants, parce qu'il est le créateur souverain, le régisseur souverain, le juge souverain de tout ce qui existe. Mais je veux quand même ajouter une chose avant de terminer, une chose qui n'est pas dite explicitement de ce texte, mais quand même, qui est quand même très fortement sous-entendue. C'est que Dieu est aussi le sauveur souverain. Ce qu'on a vu dans ce texte, c'est que la souveraineté de Dieu devrait inspirer notre humilité devant lui, notre obéissance à sa parole et notre crainte en sa présence. Mais sa souveraineté peut aussi inspirer notre espérance et notre paix. Pourquoi ? Parce que Dieu, comme on l'a vu dans ce texte, est capable de réaliser ce que ma traduction appelle une démarcation libératrice, mais littéralement en hébreu, une rédemption pour son peuple, même en territoire ennemi. Et ce qu'on voit là, c'est que Dieu, souverainement, est capable d'épargner son jugement au peuple qu'il a choisi. Il est capable d'épargner son ou ses jugements au peuple qu'il a choisi. Et c'est exactement pour ça que Dieu, plus tard dans l'histoire, est venu parmi les hommes en la personne de Jésus. Jésus a souffert, et il est mort sur la croix, non pas par accident, mais d'après le dessein souverain de Dieu. Jésus a supporté la croix, sur la croix, pardon, il a supporté le châtiment de Dieu, celui que Dieu réservait aux pécheurs. Il a été enseveli et il est ensuite ressuscité en vainqueur, de sorte que tous ceux qui lui font maintenant confiance entrent au bénéfice de cette démarcation libératrice, pour reprendre le terme du texte, ou encore de cette rédemption que Dieu a réalisée dans sa souveraineté. Et si dans sa souveraineté, Dieu aujourd'hui est en train d'incliner votre cœur à la foi, ou peut-être qu'il a déjà dans votre vie incliné votre cœur à la foi en lui, si c'est le cas, mes amis, sachez que sa souveraineté est votre sécurité. Et cela, quelles que soient les circonstances que vous pourriez traverser, panne de voiture, perte d'un être cher, maladie, déception, etc. Que dire en conclusion, sinon s'exclamer avec l'apôtre Paul, qui après avoir réfléchi à l'absolue souveraineté de Dieu, ne peut s'empêcher, ne peut réprimer ce chant de louange qui monte en lui et qui sort ainsi, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu !» Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.